chapeau bifron. Il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez du Trisac.
Bon, les nouvelles à surveiller avec Alexandre Dubé. Monsieur Dubé, bonjour.
Salut Benoît.
Pas des ben bonnes nouvelles, hein?
Ouf, là je vais t'avouer, quand j'ai vu le bilan des chiffres là, pour la COVID-19 sortir à 11h, puis j'ai vu le total, j'ai eu effectivement une petite réaction, 637 cas de plus. Ça, c'est pas mal le sommet qu'on a eu dans les dernières semaines, je te dirais.
Au Québec, ça.
Au Québec, là. Ouais. Et quand on décortique tout ça, bon, on s'aperçoit que la capitale nationale, ça continue de mal aller. 132 nouveaux cas pour la capitale nationale. Chaudière-Appalaches, plus 38. Montréal, plus 229 à Montréal. C'est beaucoup. Montérégie, plus 83 et Laval, plus 43. Ce sont les principales régions, là, je te dirais. Au niveau des hospitalisations, la tendance qu'on a observée dans les derniers jours, ça se poursuit. 15 hospitalisations de plus, on frôle les 200 hospitalisations en ce moment. Aux soins intensifs, ça augmente de 2, on en est à 33. On a testé beaucoup, c'est un nouveau sommet aussi, 36 060 tests. Mais là, la question qui est dans l'air, et il y aura le point de presse de Christian Dubé à 13h30 cet après-midi, c'est est-ce qu'il y aura de nouvelles mesures d'annoncer? Mmh. Est-ce que ça se fera maintenant? Est-ce que ça se fera au cours des prochains jours?
Mais là, il y a toute la semaine, Alexandre, le gouvernement et le ministre de la Santé nous ont mis en garde. Là. Mmh. On va frapper un mur, on va, tu sais, c'est un virus qui est méchant, qui est pas fin, mais... Là, ça va prendre des mesures, là, parce qu'on peut pas continuer comme ça.
Ben, tu sais, c'est sûr que dimanche passé, en faisant basculer trois régions dans le orange, ouais, pour une première phase, il y en a eu d'autres au courant de la semaine, mais tu sais, quand on a fait basculer la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, puis Montréal dans le orange, ça a quand même donné un certain coup, là. Est-ce qu'on devra resserrer la vis à certains endroits? On verra. Mais on a l'impression que cette semaine, on a un peu tout essayé. Là. On a sorti des publicités d'une personne atteinte de la COVID-19. On a essayé de réorienter le message un peu. Hier, Christian Dubé a imploré les Québécois de rester à la maison, de ne pas faire de party, de souper. Il a même dit, n'allez pas au restaurant. Là, il y a des restaurateurs qui sont sortis aussi ce matin en disant, mais on est déjà à terre. Là, ça sera pas évident pour la suite des choses, surtout si on en vient à fermer les salles à manger. Parce que c'est une chose, puis c'est pas évident pour eux de réduire déjà la capacité dans les salles à manger, mais si en plus on les ferme, les salles à manger, juste simplement les commandes pour emporter, ce sera pas suffisant pour plusieurs.
Tu vois, je suis allé dîner avec Mme Dutrisac cette semaine.
Ouais, OK.
Pour le fun. Tu sais, okay. Les enfants étaient à l'école, ouais, t'es tranquille. Puis la propriétaire du resto où on est allé disait ça n'arrête pas, là. Ça roule comme l'enfer. Mm-hmm. Les gens sortent, les gens ont besoin de sortir, ils ont besoin. Puis il y avait les mesures, tu sais, on était à distance des autres tables, puis tout était selon les normes. Mais les gens ont besoin de ça. Si on referme la shop, je ne sais pas comment on va prendre ça.
Ben, effectivement, ça fait partie des craintes, ça fait partie des risques qui sont là, puis personne qui, en tout cas... Je souhaite pas là, qu'on se retrouve comme on a vécu le printemps dernier à s'isoler. On n'en est pas là actuellement, mais je veux dire, on voit venir cette vague-là. Puis l'objectif, c'est la part du gouvernement, c'est d'essayer de casser cette vague-là. Mmh. Mais c'est sûr que pour que le message passe, Benoît, faut encore que le message soit clair. Tu sais, pas encore cette semaine, il y a eu des ratés, là. Il y a eu des ratés de communication au niveau de « on va-tu envoyer la police chez vous » ou quoi que ce soit. On sait à quel point, dans la tête du monde, puis c'est vrai, le domicile, là, c'est un sanctuaire inviolable, là, à moins, là, tu sais, d'une urgence ou de quelque chose comme ça. C'est une question qui est très, très, très sensible. Donc, quand le docteur Arruda s'est aventuré à tort sur ce terrain-là, puis après ça, il a fallu rétro-pédaler, ben là, ça dilue le message un peu. Ouais. Au lieu de focusser sur le fait de, OK, là, c'est un coup à donner, c'est important de redresser ça.
OK, mais qu'est-ce que tu fais, Alexandre? Si tu vois sur la rue, là, tu le sais, là, il y a un gros party d'une gang de cabochons qui se contrefiche de tout le monde. On fait quoi? On fait semblant que tout est correct? La police débarque? La police, on veut qu'elle débarque? Parce que ces gens-là vont sortir dans le quartier après. Puis on veut pas l'avoir, cette saloperie de COVID-19. Qu'est-ce qu'on fait?
Mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il faut quand même différencier les deux, là. C'est-à-dire qu'il y a une méchante différence entre un gros party de gens qui sont tout collés les uns ces autres, OK? Puis il y a à peu près 15 chars sur la rue, versus qu'il y a un souper d'amis, on dépasse le 6, on est peut-être à 10, 12. Je dis pas que c'est approprié dans le temps, là. Mais
là,
probablement
c'est pas le temps,
que le... Non, là, c'est sûr que c'est pas le temps. Mais je pense qu'il faut quand même faire la différence pour peut-être rallier davantage de gens puis d'accepter cette possibilité-là.
Mais si les gens comprennent pas la nuance, ça va être non. Ça va être fini. À un moment donné, t'arrêtes de t'obstiner avec des gens qui comprennent ni du cul ni de la tête. Là. Ça va être non.
Ah, c'est sûr qu'il y en a qui veulent rien.
Mais on va tous retourner en confinement. Regarde là, les prix Nobel à Québec. Ben c'est ça que ça donne. Ceux qui propagent le message de « c'est pas grave, pas de masse, c'est liberté », ben c'est ça que ça donne.
Ah, les chiffres sont révélateurs là, pour Québec. Puis Québec a été épargné à peu près dans la première vague. Il n'y en a pas eu presque pas. Des petites éclosions à gauche.
C'est la faute des Montréalais qui sont allés à Québec.
Ah, je te dis qu'on se faisait regarder. Hein?
Oui, je le sais. Avec raison. Bon, alors, point de presse cet après-midi.
Oui, c'est à 13h30. Là, habituellement, la grande messe, c'est à 13h. Mais là, aujourd'hui, c'est convoqué pour 13h30. On verra bien. Christian Dubé sera là. Le docteur Arruda aussi. 13h30.
Parfait.
J'ai hâte de voir.
La course au Parti québécois, je n'ai pas regardé le dernier débat. Je l'ai raté, j'y ai pas pensé.
OK. Mais je vais te mettre au jour quand même avec un nouveau sondage. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Ça a été commandé par l'équipe de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais quand même au niveau des chiffres, c'est intéressant. Mais quand même comme trame de fond, faut le dire par qui ça a été commandé. Ça place Sylvain Gaudreau en tête des intentions de vote pour la chefferie, mais Paul Saint-Pierre Plamondon pourrait brouiller les cartes dans l'éventualité probable d'un deuxième tour. Et je t'explique pour toi. Donc, M. Gaudreau, premier choix, 31% des membres et des sympathisants péquistes. 26% pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, devant M. Nantel. Devant M. Nantel. Alors ça, c'était pas la tendance qu'on avait, mais oui. dans les coulisses du Parti québécois, souvent, les gens, et j'en entendais dire Paul Saint-Pierre Plamondon, il est plus haut que vous pensez. Alors là, ce sondage-là, qui est commandé par son équipe, mais quand même, ça tend à le démontrer.
Quelle était la question?
C'était une très, très longue question.
Non, mais...
ambiguë.
Des fois, c'est snoro, hein?
Oui, c'est un bon point. Mais ce pourquoi je te disais que ça pourrait peut-être causer, ou du moins brouiller les cartes dans le deuxième tour, c'est que... ce qu'il faut comprendre, c'est que ça pourrait peut-être être connu, ce nom-là, au deuxième, voire même au troisième tour, parce qu'un candidat doit atteindre la barre du 50% plus un pour l'emporter. C'est un sondage qui a été réalisé du 17 au 21 septembre auprès de 1002 membres en règle et sympathisants du PQ. On a une marge d'erreur d'à peu près 3%, mais ça donne peut-être une idée. Est-ce que M. Nantel a perdu la deuxième place? M. Gaudreau a toujours été, règle générale, là, en tête là, dans cette course-là. Il est bien établi, mais Paul Saint-Pierre Plamondon est deuxième selon ce sondage-là. Et si on va au deuxième ou au troisième tour? Bon, peut-être
c'est comme
surprise.
S'installer aussi pour la nouvelle direction du Parti québécois, là, le nouvel establishment. Là. Si M. Gaudreau est élu chef, et en plus chef du Parti québécois en 2020, bonne chance. Hein?
Oui.
T'es pas à un défi près.
Il y a quelques chantiers.
Quelques chantiers.
Beaucoup de volonté, quelques chantiers.
Et peu de signaleurs pour éviter la circulation. Les derniers détails du procès du danseur à gogo. Excuse-moi, j'ai eu une image.
Oui, t'as un petit souvenir?
Sur le touch.
Oui, avec sa serviette qui se dandine, qui se trimousse.
Arrête! Bah. Oui, non, j'ai pas faim.
Non, OK. Non.
Alors, l'expert Robitaille.
Oui, je sais à quel point t'aimes suivre ce procès-là. Bah. Fait que je vais te faire un petit résumé de ce qu'on a appris. C'est un entrepreneur qui voulait installer des jeux, OK, dans le parc à Terrebonne, qui dit avoir versé 21 000 $ dans une enveloppe brune au chef de cabinet de l'ex-maire Robitaille. Donc, le patron de la firme Forme et Jeux, il s'appelle Paul-Émile Baudry. Lui, il dit avoir déposé cette somme-là à l'automne 2006 dans le bureau de Daniel Bellec. Qui est-il? C'est l'ancien chef de cabinet de Robitaille. L'entrepreneur en question affirme avoir remis donc l'enveloppe. Après avoir compris que c'était la seule façon pour lui d'obtenir des contrats à Terrebonne, Paul-Émile Baudry témoignait hier au procès pour corruption et abus de confiance de l'ex-maire Robitaille, de son ex-chef de cabinet, Daniel Bellec, et de l'ex-directeur général de Terrebonne, Luc Papillon, l'entrepreneur Normand Trudel également. Donc, la somme de 21 000 $, ça représentait 3 % de la valeur du contrat convoité par Baudry, soit 700 000, le fameux 3 %. Et M. Baudry dit avoir ensuite reçu sa part de contrat de module de jeu à Terrebonne pendant quelques années.
C'est un hasard.
C'est un hasard.
Ça tombe comme ça. Mm-hmm. Alors ça, c'est le procès, mais il y a lieu ce procès-là. Là. On l'a pas...
Celui-là a lieu,
puis on a encore les images.
Bien fraîche en tête.
Ah, M. Robitaille, en speedo, qui se fait aller la zizine.
Un beau bronzage.
Un beau bronzage, hein? Essai intégral. Il a été là longtemps, de toute évidence, sur le bateau de M. Accurso, qu'on salue d'ailleurs. Le procès de Nathalie Normandeau, bon, c'est arrêt des procédures, on le sait depuis 10 heures ce matin.
Et c'est une des grosses nouvelles du jour. Là. 4 ans et demi après avoir arrêté par l'UPAC, Nathalie Normandeau, ses 5 co-accusés aussi ont été libérés de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre eux. C'est le juge André Perrault qui a rendu sa décision au Palais de justice de Québec. C'était une deuxième requête en arrêt des procédures là, pour délai déraisonnable relativement à l'arrêt Jordan. Ça sonne le glas de cette histoire-là qui avait créé, tu te souviendras, tellement une commotion sur la colline parlementaire le jour du budget en mars 2016. Ça avait fait couler énormément d'encre depuis. Et Nathalie Normandeau, Benoît, a commenté là au cours de la dernière heure. Elle se dit soulagée après cette décision-là. Elle va encore plus loin que ça. Puis c'est la citation. Là. Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. On m'a volé 4 ans et demi de ma vie. C'est ce qu'elle a déclaré à sa sortie du palais de justice. Reste à voir la suite des choses pour elle. Est-ce qu'elle sera tentée de poursuivre à son tour pour toutes ces années-là? Vraiment, ça reste à voir, mais c'est une décision.
Poursuivre l'UPAC?
Poursuivre le DPCP, l'UPAC. Je te dirais que le DPCP a la mine, a le caquet bas un peu. Là, en
non, mais c'est déraisonnable aussi. Là, mars 2016,
ah oui, pense-y.
On est rendu en septembre 2020.
4 ans et demi, Benoît.
Mais Marc Mancroté n'a pas aidé non plus. T'sais, il a envoyé des... En tout cas, procédure pour ralentir le processus, on le sait. On est avec ça. Je rappelle, sauf erreur, 44,5 millions de dollars, la commission Charbonneau, et tout ça pour ça.
Tout ça pour ça.
Bon, parfait. Merci, M. Dubé. Bonne fin de semaine. Week-end. Après cette légère pause, on aura avec nous Lino Zambito, qui, vous savez, a été la vedette, témoin vedette de cette commission Charbonneau et qui avait révélé des choses à propos de Mme Normandeau. Et on a Maxime Roy, l'avocat de Mme Normandeau. Tout ça après cette pause.